suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle. Nous diffusons la table ronde enregistrée le samedi 13 février à l'occasion du 4e forum France Culture dont le thème est cette année l'humain dans tous ses états. La table ronde de Science Publique avait pour sujet sexe, hypnose, méditation. Peut-on percer les derniers mystères de la conscience avec nos invités Christophe André, Jean-Marc Benayem, Elisa Brune et Jean-Philippe Lachaud. Merci d'être là, si nombreux par rapport au fait que nous sommes quand même un samedi et qu'il faut venir jusqu'ici malgré la pluie. Alors vous êtes là effectivement physiquement, ça je peux très bien le voir et je n'ai pas le moindre doute là-dessus. En revanche, est-ce que je peux répondre à la question « êtes-vous là également psychologiquement ?» Là, la question est beaucoup plus difficile et la réponse peut dépendre de chacun et de chacune d'entre vous. Peut-être que vous écoutez avec une grande attention ce que je suis en train de dire, mais peut-être aussi que vous pensez à toute autre chose et à des choses qui ne sont même pas décelables à travers votre visage. Peut-être que vous pensez à ce que vous allez faire cet après-midi ou ce soir, au fait que votre voiture est mal garée, que vos enfants sont seuls chez vous, enfin à toute autre chose que ce qu'il se passe ici. Et justement, nous allons nous intéresser aujourd'hui à ce qu'est la notion de conscience. Donc, comme vous l'a dit Vincent, le thème de notre table ronde, c'est sexe, hypnose, méditation. Peut-on percer les mystères de la conscience? Alors, la conscience, c'est quand même un événement très spécial, très humain, et en même temps, qui est très difficile à définir. Nous avons reçu, par exemple, il y a à peu près un an, le neurologue belge Steven Lorez, qui, lui, travaille sur les modes de conscience qui sont à la fois, comme il le dit, extérieur et intérieur, et il travaille sur la détection de l'activité cérébrale chez des personnes qui sont plongées dans le coma ou dans l'état végétatif, et il aurait isolé une zone du cerveau qu'il appelle le précuneus et le cortex singulaire postérieur, et dans lesquels l'activité représenterait justement, serait corrélée à l'existence d'une conscience chez la personne qui souffre par exemple de coma. Alors, heureusement, il existe d'autres états que ces états limites de la conscience. Il y a aussi ce qu'on appelle les états modifiés de la conscience. Et c'est un peu de ces états dont nous allons parler aujourd'hui ensemble avec nos invités. Ces états sont nombreux et nous en connaissons, en dehors évidemment du coma ou de l'état végétatif, nous en connaissons un que tout le monde pratique puisqu'il s'agit du sommeil. Donc on va se focaliser sur trois états modifiés de conscience, qui sont l'hypnose, la méditation et le sexe. Donc vous allez comprendre pourquoi, justement, on a choisi ces trois exemples. Et ces trois exemples seront traversés par une notion qui est assez générale, qui est l'attention. Et c'est aussi la raison pour laquelle, tout à l'heure, je parlais de votre présence ici et de l'attention que vous pouvez porter à la fois à ce que vont dire nos invités, mais aussi à ce qui se passe autour de vous dans cette salle. Nos invités, je vous les présente rapidement. Christophe André est à ma droite. Il est médecin psychiatre dans le service hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et au sein d'une unité spécialisée dans le traitement et la prévention des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont celui qui a le plus de rapport direct avec notre thème d'aujourd'hui. Il s'appelle « Méditer jour après jour, 25 leçons pour vivre en pleine conscience ». Qui a été publié aux éditions L'Iconoclaste en 2011. Jean-Marc Benayem, qui est à l'extrémité de cette table ronde, est médecin hypnothérapeute. Il a créé le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il est praticien attaché au centre de traitement de la douleur à Paris. Il a dirigé l'ouvrage collectif intitulé Le guide de l'hypnose, publié aux éditions InPress. Elisa Brune, qui est ici, est docteur en sciences de l'environnement. Elle est écrivain, journaliste, scientifique et spécialiste du plaisir féminin. Elle est l'auteur de Labo Sexo, bonne nouvelle du plaisir féminin, qui vient tout juste de paraître chez Odile Jacob. Jean-Philippe Lachaud, à sa droite, est directeur de recherche à l'INSERM, au sein du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Il anime un groupe dédié à la compréhension des mécanismes cérébraux des grandes fonctions cognitives humaines. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé le cerveau funambule comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences, qui est paru en 2015, et il a également écrit Le cerveau attentif, contrôle, maîtrise et lâcher prise, en 2013, deux ouvrages qui sont publiés chez Odile Jacob. On va peut-être commencer un premier tour de table pour pouvoir explorer les différents états modifiés de conscience dont on parle en ce moment, aujourd'hui. Donc peut-être, Jean-Philippe Lachaud, commencer par cette notion d'attention qui va traverser un petit peu tous les états que l'on dont on va parler, et qui est une notion qui paraît évidente, mais que vous expliquez à travers un état d'équilibre attentionnel. Alors, de quoi s'agit-il ?
Oui, absolument. L'attention telle qu'on la vit tous les jours, elle est le fruit, ses déplacements, ses errances, le fruit de l'activité de plusieurs systèmes dans le cerveau qui sont en compétition les uns avec les autres la plupart du temps. Par exemple, votre attention va être attirée par un bruit soudain. Donc système de réorientation réflexe de l'attention par ce qui peut être important, elle va être attirée aussi par ce qui vous fait plaisir ou ce qui vous menace. Si là il y a un chien enragé qui arrive, ça va attirer l'attention de tout le monde, c'est évident. Donc un deuxième système, puis elle peut être orientée aussi en fonction de vos objectifs, donc là par exemple m'écouter. Donc vous avez ces différents systèmes qui vont entrer en interaction avec les uns avec les autres et qui vont faire que parfois vous avez l'impression de pas très bien contrôler votre attention, tout simplement parce que vous aurez l'impression de manquer de volonté, mais en fait c'est simplement ces forces qui s'exercent. Et donc la clé, et c'est pour ça qu'on parle de sens de l'équilibre attentionnel, la clé en fait de la maîtrise de son attention, plutôt qu'un contrôle fort, c'est remarquer l'occurrence de ces forces et apprendre progressivement à se familiariser avec pour les contrôler doucement. Avec deux images possibles, soit le funambule donc sur un fil qui va sentir qu'il part un peu d'un côté, donc nous dans notre cas que notre attention est un petit peu distraite, on va tout de suite la ramener mais de façon très douce, ou alors le marin sur son voilier qui apprend à connaître les vents, les courants qui vont pousser sur son bateau et qui va les utiliser pour aller là où il veut.
Alors l'équilibre, donc vous prenez dans votre livre l'équilibre, l'exemple de la poutre et le fait que l'attention quand elle est maintenue, quand elle est soutenue, revient à être capable de parcourir cette poutre d'un bout à l'autre sans tomber.
Oui, c'est une image qui marche très bien dans le type d'intervention qu'on fait par exemple auprès d'élèves dans des classes pour leur parler de l'attention. On dit, tu vois, quand tu as quelque chose à faire, c'est comme aller d'un point A à un point B, comme traverser une poutre, et ton attention va avoir tendance à partir sur les côtés. Donc ce que tu dois faire, comme sur une poutre, c'est remarquer très vite que tu es en train de te laisser distraire pour compenser. Et surtout, ce qu'on veut faire, c'est vraiment important, c'est essayer de remplacer l'image qu'on a de la concentration, qui est souvent l'image d'un effort, de crispation, quelque chose de désagréable, à l'opposé souvent de la distraction qui, elle, est agréable. Donc on veut un petit peu gommer cette image et la remplacer par l'image justement d'une facilité, d'une légèreté qu'on trouve dans le sens de l'équilibre.
Alors il y a l'équilibre attentionnel, il y a également la pleine conscience. Christophe André, bonjour.
Voilà, bonjour. Le micro.
La pleine conscience, c'est le sujet de ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui propose de méditer en 25 chapitres. Comment définiriez-vous cette notion de pleine conscience ?
Alors la pleine conscience, c'est à la fois une méthode de méditation. Parmi tout l'univers des méthodes méditatives, il y a cette pleine conscience qui est une technique laïque, qui a été codifiée, qui a été validée scientifiquement pour ses vertus sur notre santé physique ou psychologique, etc. Mais c'est aussi une tentative pour décrire un état attentionnel particulier. C'est la pleine conscience, ce sont tous ces moments où notre esprit fonctionne avec une ouverture attentionnelle assez vaste, assez large, où nous ne sommes pas focalisés sur nos ruminations ou sur un acte en particulier que nous sommes en train d'accomplir. C'est un état attentionnel qui est fluide, où nous ne nous accrochons pas seulement à tel ou tel élément, mais où nous sommes prêts à accueillir l'ensemble de ce qui compose notre expérience. Et on s'est aperçu que ce mode de fonctionnement de notre esprit, qu'on appelle pleine conscience, n'est pas si fréquent. Que dans notre quotidien, souvent nous sommes focalisés sur des actions que nous sommes en train d'accomplir, sur des distractions auxquelles nous nous livrons, des jeux, des spectacles vidéo, etc., sur des ruminations pour nos patients. On est souvent focalisés sur nos soucis, sur nos ennuis, sur ce qui va venir, sur ce qui a eu lieu, etc. Et que ça peut faire beaucoup de bien de régulièrement se poser, ouvrir son champ attentionnel à simplement ce qui est là, ici et maintenant, sans chercher à obtenir quoi que ce soit, sans chercher à atteindre un objectif particulier. Et pour cela, effectivement, on se sert de notre attention. Alors, Jean-Philippe Lachaud nous parlera certainement de façon plus précise de la manière dont on définit l'attention en neuropsychologie. Nous, en thérapie, en tant que médecin, psychologue, clinicien, on a tendance à dire que l'attention, c'est l'œil de l'esprit. Sur quoi portons-nous notre esprit? Sur quoi tournons-nous notre esprit? Et que, eh bien, ce regard, il peut être focalisé ou ouvert, il peut être très, très resserré, au contraire, très accueillant à tout ce qui va arriver. Et l'autre chose que je voudrais dire sur l'attention également, là encore, c'est une image pédagogique, je ne sais pas jusqu'où elle est juste scientifiquement, c'est que c'est une fonction assez naturelle, assez spontanée, comme vient de dire Jean-Philippe Lachaud, mais sur laquelle nous pouvons exercer un relatif contrôle, un petit peu comme notre respiration. Notre attention, on n'a pas besoin de s'en occuper pour qu'elle existe. Elle existe à l'état naturel, même si elle existe chez les animaux sauvages, etc. Mais nous pouvons y mettre le nez, nous pouvons essayer de l'orienter dans telle ou telle direction, tout comme nous pouvons apprendre à respirer de façon plus ample, plus ouverte, etc. Donc, une fonction automatique sur laquelle nous pouvons avoir une petite influence et qui peut faire parfois toute la différence.
Alors une autre peut-être intervention de l'attention dans une pratique particulière qui fait partie de ces états modifiés de conscience. Jean-Marc Benayem, bonjour.
Bonjour.
Donc c'est l'hypnose. Alors comment vous la définiriez après déjà ces premiers jalons, l'attention, la pleine conscience?
On a déjà beaucoup d'éléments qui se rapprochent et qui s'entremêlent. De mon côté, et je crois de la part de beaucoup d'hypnothérapeutes, l'idée était de partir de la pathologie, c'est-à-dire d'examiner les cas cliniques, c'est-à-dire souvent la souffrance, bien sûr, et d'examiner, mais qu'est-ce qu'il a ce patient? Pourquoi il ne sort pas de son problème? En observant le comportement des patients, on remarque qu'ils ont une focalisation sur une souffrance, un drame, une peur, un accident, un regret, une obsession, une opération qui s'est mal passée. Et puis, observer que cet état était un état où il y avait beaucoup de mentalisation, mais pourquoi moi, mais c'est injuste, mais je regrette, etc. Et si j'avais su, j'aurais pas traversé à ce moment-là, etc. Et l'idée, pour qu'il quitte cette souffrance, pour qu'il la voie autrement, c'était de trouver un autre état que cet état de rumination. Et c'était ça le développement de l'hypnose. Et c'est comme ça, je pense, que Mesmer a entrevu l'hypnose. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait pas élargir la perception et trouver une perception où le problème est toujours là, évidemment. Mais il va peut-être trouver une solution, il va peut-être être digéré, il va peut-être faire en sorte que ça s'arrête pas là, que sa vie ne se résume pas à ce drame. D'où les deux états, c'est-à-dire un état où la perception est restreinte, où on focalise sur un problème, et un état où la perception est élargie, le problème est là, mais il n'a plus l'ampleur, l'amplitude qu'il avait précédemment.
Oui, on reviendra sur les mécanismes plus intimes de l'hypnose. Elisa Brune, bonjour.
Bonjour.
Donc vous vous intéressez au plaisir sexuel, mais peut-être au-delà du plaisir sexuel, à l'ensemble de ce que on appelle l'amour, à la fois dans ses prémices, dans son l'état amoureux qu'il induit, et puis aussi évidemment dans le rapport sexuel. Alors comment le plaisir sexuel peut être considéré comme un état de conscience modifié?
Contrairement peut-être à la méditation et à l'hypnose, la sexualité, en principe, tout le monde connaît, enfin, j'espère. C'est quelque chose qui fait partie du comportement automatique de tout un chacun. C'est évidemment un répertoire assez varié. Et pour bien faire, il faudrait que j'aborde au moins trois dimensions. J'essayerai de le faire rapidement au début, en parlant du premier moment qui est l'attraction pour quelqu'un. C'est manifestement un état attentionnel particulier qui a cette particularité qu'on n'est pas toujours aux commandes. On a l'impression parfois de faire des choix malgré soi ou qu'on ne comprend pas. La deuxième dimension, c'est l'état amoureux. Les papillons dans le ventre, comme on dit, mais ils sont aussi dans la tête, les papillons. Alors cet état-là, en principe aussi, tout le monde connaît. Ça se traduit par une euphorie, par un optimisme, par une joie de vivre et une confiance qui sont aussi attribuables à un état mental particulier. Et puis il y a une troisième dimension qui est la sexualité effective, qui se conclut, quand tout va bien, par un feu d'artifice qu'on appelle l'orgasme, et qui est là, pour le coup, de manière évidente, un état modifié de conscience. Il est même massivement modifié, et c'est peut-être le seul auquel tout un chacun peut avoir accès sans se livrer à des activités un peu extrêmes ou déviantes. Je veux dire, l'orgasme est à la disposition de tout le monde, et tous
vous
les jours.
Extrême ou déviante, vous pensez pas, j'imagine, à l'hypnose ou à la méditation?
Ah non, non. Je pense à des états plus proches de l'orgasme, qui sont des états de transe ou d'épilepsie ou de drogue, qui sont des états fortement dynamiques comparés à la méditation ou l'hypnose, qui seront plutôt, eux, des états fortement modifiés, mais dans un sens beaucoup plus calme.
Christophe André.
Oui, il y a aussi, vous parliez de la sexualité comme une activité naturelle qui peut naturellement nous amener vers des états modifiés de conscience, notamment lors de l'hypnose, mais il y a aussi des états spontanés de modification de conscience dans le courant de nos journées. Lorsque vous placez un être humain face à un feu de cheminée, face aux vagues de la mer, eh bien, ça modifie son rapport au monde, c'est-à-dire son attention va être captée par ce qu'on appelle dans notre jargon une cible mouvante, les flammes du feu de bois, le déroulé permanent des vagues de la mer. Et cette cible mouvante va à la fois capter ses ressources attentionnelles et pacifier aussi en général son ressenti émotionnel. Ça, c'est du bio, du spontané, un peu comme la sexualité, donc, qui est à notre disposition sans être obligé d'absorber des substances diverses et aussi sans être obligé de faire des efforts ou de suivre une technique particulière. Donc tout ça est déjà à notre disposition dans notre cerveau. Notre cerveau est préparé à aller vers ces états particuliers. Nous pouvons les rencontrer comme ça par hasard, mais nous pouvons aussi travailler à les susciter, à les créer, à les approfondir, à les élargir.
Alors, vous l'avez cité comme des situations favorables à ces états de conscience élargis, le feu de cheminée ou le spectacle des vagues au bord de l'eau. On peut, dans ces circonstances, d'ailleurs, continuer à consulter ses mails sur son téléphone mobile ou à envoyer des SMS. Et donc, avoir des personnes face à la même situation qui réagissent, agissent et se comportent totalement différemment.
Oui, alors ça c'est un autre problème, ça c'est quasiment un problème de médecine environnementale. Aujourd'hui en médecine, on s'aperçoit qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur nos patients, leur santé, leur pathologie, mais aussi sur leur environnement. On a compris ça avec les pollutions, on sait que c'est difficile de rester en bonne santé physique dans un environnement pollué, si l'eau est polluée, si l'air est pollué, si les aliments sont pollués, ça va affecter ma santé, même si j'ai un très bon médecin. Eh bien, il y a aussi des pollutions environnementales et notamment des pollutions attentionnelles. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui est génial, qui est passionnant, mais qui est truffé d'écrans, truffé d'incitations digitales, truffé de sollicitations qui vont faire que de plus en plus nous perdons le goût de la simple présence, le goût de ce que les anciens appelaient la contemplation. Être là, se rendre présent au monde et juste, sans objectif particulier, se sentir vivant, se rendre présent à ce qui nous entoure, à ce qu'il y a à voir. Effectivement, le grand gâchis, à mon avis, c'est que lorsque quelqu'un est face à un feu de bois, face aux vagues de la mer, ou même en train d'attendre un ami, qu'il n'en profite pas pour fonctionner un petit peu sur le registre de l'introspection, se dire comment ça va, où tu en es, comment ça se passe dans ton corps, qu'est-ce qui traverse ton esprit, et qu'il se jette fréquemment vers l'écran de son smartphone pour faire tout un tas d'activités géniales et passionnantes, mais dont il a un peu perdu le contrôle quand même.
Jean-Marc Bedayem.
C'est souvent présenté, je présente ça aux patients comme une dispersion, c'est-à-dire comme une fragmentation, pour que ce soit bien perçu, c'est-à-dire la personne est là, mais elle est là aussi, et puis là aussi, alors que, et c'est ça qui crée la pathologie, un peu comme quelqu'un qui voudrait jouer une musique ou passer un concours, et qui serait là avec son instrument, mais qui serait aussi dans la salle en disant comment on va me juger, et qui serait aussi, j'espère que je vais pas déplaire à mes parents qui sont venus m'écouter, et cette fragmentation fait qu'il y a plus de mouvement possible, et qu'il n'y a plus d'absorption dans la musique, par exemple. Et donc c'est souvent cela qu'on nous demande dans le soin, en tout cas. Ce serait, est-ce que j'aurais un moyen de me défaire de cette dispersion? Et alors on propose à la personne enfin d'être unifiée, c'est-à-dire d'être complètement présente avec ses bras, ses jambes, d'être tout à fait là, absorbé comme un artiste qui crée quelque chose et qui ne peut plus créer s'il est dispersé. Et là, on retrouve, alors peut-être qu'on aura des explications sur ce dispersé, rassemblé au neurophysiologique, mais c'est ça qui fait disparaître une phobie, par exemple. C'est ça qui fait disparaître une peur. C'est cette possibilité de dire « Ah ben ça y est, je suis là ». Ni dans le passé, ni après, ni dans l'appréhension, ni en train de me regarder. Et c'est cette densité de présence qui fait que un problème peut être résolu.
Jean-Philippe Lachaud.
En fait, la dispersion, c'est une réaction normale du cerveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut en être victime, mais savoir que c'est normal. Dans tout le règne animal, vous avez toujours un compromis entre exploitation et exploration. La petite souris qui trouve un peu de nourriture à un moment donné, il y a toujours cette question de savoir s'il n'y a pas plus de nourriture à côté. Donc le fait de se bloquer à un endroit, c'est aussi passer à côté de tout ce qu'il y a. Donc le cerveau est face à beaucoup de sollicitations, sa réaction naturelle, ça va être de papillonner, de prendre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Donc faut le savoir, simplement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discipliner ça, mais dans ce cas-là, l'attention, la focalisation entraîne un renoncement. Donc il faut le savoir qu'apprendre la concentration, c'est aussi apprendre à renoncer, à ne pas faire tout ce qu'on peut faire à un moment donné, à ne pas regarder toutes les chaînes de télé en même temps, tous les messages, il y a un renoncement.
Donc, il faut accepter de perdre.
Il faut accepter de perdre quelque chose, absolument, pour gagner autre chose. Et l'autre aspect, c'est que par rapport à cette idée de dispersion, ce que je vois, c'est que, en vous entendant, il y a un petit peu deux états attentionnels qui sont moins désirables peut-être qu'un autre, qui sont la dispersion, donc où l'attention est complètement vaporisée, et puis un autre où l'attention est hyper focalisée sur un problème, sur une rumination. Et on voit à partir de là, moi j'aime bien parler de faire une comparaison avec l'eau. L'eau a trois états, gelée, donc la glace, ou liquide, ou gazeuse. Pour moi, l'attention, elle peut aussi avoir trois états. Cet état hyper focalisé, c'est un petit peu l'état gelé, qui finalement, donc on ne peut pas faire grand-chose, enfin à part mettre dans un whisky. L'état liquide, l'eau prend la forme du récipient. De la même façon, l'attention, elle va prendre la forme de l'activité que vous avez à mener, donc elle va s'adapter. Et puis, qui est peut-être plus favorable que cet état complètement dispersé, gazeux, où l'attention part dans tous les sens.
C'est une belle image, une belle métaphore.
Elisa Brune voulait intervenir.
Oui, je voudrais ajouter une dimension sur la question de l'attention, entre attention dispersée, attention focalisée. Je voudrais ajouter l'idée que l'attention peut être informée par des processus non conscients. C'est ce qui se passe dans l'attraction amoureuse ou sexuelle. Si on vous présente des stimuli sous forme d'images érotiques, mais trop rapides pour que vous puissiez les voir, et que ceux-ci sont entremêlés avec des images neutres, et qu'on vous met dans une machine à imagerie fonctionnelle, un IRM, on va observer que, bien que vous n'ayez conscience de rien, dans votre cerveau, il y a une structure qui est l'amygdale qui a réagi lorsque le stimulus est érotique, et pas dans les autres cas. Et évidemment, cette amygdale est la voie d'entrée pour une modification de votre état mental qui va être favorable à une excitation sexuelle. C'est un exemple visuel. Une autre dimension est évidemment la perception des odeurs. Et là, il faut que je vous raconte une petite expérience qui est vraiment très astucieuse et drôle. Vous prélevez de la sueur masculine sur 20 jolis individus. Et vous prélevez aussi de la sueur masculine sur les mêmes individus lorsqu'ils sont dans un état d'excitation sexuelle. Donc vous les avez mis dans un isoloir avec un magazine. Et au moment clé, vous prélevez aussi de la sueur au moyen d'un coton de ouate. Ensuite, vous remerciez les gentils Kobe et vous faites venir des femmes à qui vous allez demander, sans rien leur dire d'autre, de respirer ces différents cotons de ouate. Et vous ne leur demandez rien, pas d'avis, pas de jugement, pas de rien. Vous allez seulement scanner leur cerveau. Et le cerveau va vous dire qu'il a compris quels sont les cotons d'ouate excités et quels sont les cotons d'ouate neutres. Mais la fille, elle ne s'en rend pas compte du tout. Elle sent, et puis à la fin de l'expérience, elle dit « Bon, et quoi ?» Ben, en fait, rien, consciemment rien, mais inconsciemment, oui, l'odeur chargée de molécules, de phéromones sexuelles, a été perçue par la structure limbique du cerveau, celle qui va la mettre dans un état réceptif. Donc c'est juste pour vous dire que l'attention peut être guidée et obéir à des choix que vous n'avez pas faits consciemment, mais qui sont fortement documentés dans votre cerveau. Juste pour l'anecdote, en sortant du métro là tout à l'heure, je marchais derrière quelqu'un et je sens un petit changement mental. Alors je regarde plus attentivement et je vois qu'il y a devant moi un homme qui marche de façon sexy. Et je l'ai compris après. Ça s'était d'abord manifesté par un léger changement d'état mental dont je n'avais pas été consciente au départ.
Et ça m'intéresse Christophe, beaucoup. C'est quoi un homme qui marche de façon sexy? Ça peut servir. Sérieusement, non, sérieux.
Mais justement, il est impossible pour moi de vous le décrire. Le fait qu'il soit sexy, c'est le jugement conséquent à ce qui s'est produit dans mon cerveau limbique. Ce n'est pas du cognitif, ce n'est pas du rationnel. Et ce n'est pas la même chose chez toutes les femmes. Hein, ce n'est pas non plus quelque chose qui est celui-là est sexy, celui-là ne l'est pas.
C'est non, universel.
Pour mon cerveau, avec son histoire, avec sa structure, cette démarche-là a fait un effet de petit loquet qui saute. Voilà.
Jean-Marc Benayem.
Alors, Elisa, vous mettez en évidence une perception non consciente, la force, l'importance de la perception non consciente. Ce sont des travaux, des textes que j'ai beaucoup aimés dans le livre de Jean-Philippe Lachaud sur l'attention, et qu'il y aurait une attention, comme une pré-attention, dont on n'aurait pas conscience, et qui serait assez déterminante pour beaucoup de nos comportements. Donc, il décrit ça très bien, je suis content de pouvoir en parler avec lui en sa présence, c'est-à-dire une attention non focalisée, donc large, non volontaire, voyons si c'est bien cela, non volontaire, un peu, je dirais pas très affinée, mais globale, et qui permet de ressentir, peut-être pour la survie ou pour la reproduction de l'espèce, et que cette attention large va déterminer les comportements qui vont suivre.
Jean-Philippe Lachaud.
Absolument. Effectivement, le cerveau va assez spontanément faire attention à ce qu'il évalue comme le plus important à un moment donné. Mais l'importance, voilà, qu'est-ce qui détermine ce qui est important et ce qui ne l'est pas? Vous avez effectivement toute une série de stimuli qui, à un moment donné de votre vie, vont avoir un caractère important. Pas forcément parce que vous l'avez décidé, mais parce que c'est comme ça. Il y a deux exemples qui sont extrêmement célèbres. Si je dis Pierre, là. J'imagine que dans l'assemblée, il y a un certain nombre de personnes qui s'appellent Pierre et à qui ça a fait quelque chose d'entendre Pierre, parce que c'est important d'entendre son prénom. Donc l'attention pourrait être réorientée, même quand on n'écoute pas forcément. Bon là, j'espère que vous m'écoutez, mais c'est l'effet. Vous êtes au restaurant, quelqu'un dit votre prénom, mentionne votre prénom à la table d'à côté, ça va réorienter votre attention parce que ça a été évalué comme ça sans que vous en ayez conscience.
Oui, peut-être je fais l'hypothèse que c'est peut-être là-dessus que l'on agit dans des phénomènes non conscients qu'on redistribue de façon à ressentir des choses qu'on ne ressent plus ou qu'on n'osait pas ou qu'on ne voulait pas, et que ce serait ça le résultat d'une séance d'hypnose. En tout cas, ce serait que la personne ouvre tellement qu'elle dit « Ah ça y est, soit je suis reprogrammé, soit je revois ce qui est essentiel, je reperçois ce qui est vital ». Par rapport à, je focalise sur des faits qui ne sont pas vitaux, mais qui me font peur.
Et juste, effectivement, oui, tout à fait. Mais je vous avais promis deux exemples.
Alors voilà, oui, j'allais vous les...
C'est la maman qui est au milieu de la nuit, ou le papa, qui est réveillée par les pleurs de son nourrisson. Parce que là, justement, les pleurs du nourrisson qui vont être définis par une empreinte sonore très particulière, qui vont être détectées au milieu de la nuit, parfois en plein sommeil, même si c'est très léger, qui vont réorienter l'attention et donc causer le réveil. Parce que c'est extrêmement important d'être à l'affût de son petit enfant.
Voilà, et là aussi, peut-être une action inconsciente, directe, un peu comme les odeurs dont on a parlé tout à l'heure. Alors, gardez le micro, Jean-Philippe Lachaud, parce que je voudrais que, justement, on a prévu que vous veniez avec chacun votre conscience sur vous, et que donc vous puissiez l'utiliser et faire quelques petits exercices à la lumière de tout ce que l'on vient de raconter. Et Jean-Philippe Lachaud, comme d'ailleurs Jean-Marc Bedayem et Christophe André, ont préparé des petits exercices brefs. Bon, évidemment, Elisa Brune aura plus de mal peut-être à mettre en scène le type d'état modifié.
On peut tous aller dans la station de métro. Hein.
Voilà. Mais c'est déjà fait d'une certaine façon, grâce à votre témoignage. Donc, Jean-Philippe Lachaud, peut-être un petit premier exercice très court pour essayer de prendre conscience de ce dont on parle. parle aujourd'hui, de cette conscience et de cette attention.
Moi, je vais simplement vous demander pendant 20 secondes d'observer ce que fait naturellement votre regard quand vous regardez autour. Bon, je pourrais vous laisser faire ça pendant une heure. Alors bon, ok, à quoi ça sert ? En fait, l'idée, c'est simplement d'attirer justement votre attention sur le fait que lorsque vous regardez autour de vous, typiquement, vous allez déplacer votre regard 3 à 4 fois par seconde. C'est ce qu'on appelle des saccades, c'est-à-dire des petits déplacements du regard. C'est un petit peu comme quand on tâtonne dans le noir, on déplace la main. Donc là, on fait la même chose avec les yeux pour prendre de l'information. Ce qui est assez frappant, quand on s'arrête 2 minutes pour y réfléchir, c'est qu'à raison de 3 à 4 déplacements du regard par seconde, en fait, on ne peut pas décider de chacun des déplacements de son regard. Vous pouvez essayer à chaque fois de décider de là où vous allez regarder, vous allez voir que vous n'allez pas réussir à explorer comme ça à cette vitesse-là. Vous allez complètement rompre la dynamique. Donc, la plupart du temps, le cerveau fait ses petits calculs et va orienter le regard en fonction de ce qu'il a identifié comme étant potentiellement important, de ce qui attire notre attention. On voit donc toute cette attention qui est finalement non consciente, ces systèmes préattentifs d'orientation du regard. Vous sortez de l'amphi, vous sortez de la Sorbonne, vous allez être dans la rue, il va y avoir des publicités sur le côté, vous allez croiser des gens dans la rue, votre regard va partir, il va partir vers le visage en face, il va partir vers la publicité. Donc il y a toute cette dynamique finalement qui est là tout le temps, donc des déplacements du regard mais également de l'attention, qui en fait vit sa propre vie et dont on est largement spectateur la plupart du temps. Même si on a l'impression de décider, en fait on est très spectateur de ça. Et se rendre compte de ça, c'est déjà mettre un premier pied dans une démarche d'introspection et d'exploration de sa propre attention et de ses forces qui à chaque instant orientent notre attention dans tous les sens. Et une fois que vous commencez à comprendre ces forces et les identifier, vous commencez non pas à les contrôler mais à développer une certaine capacité à les anticiper et à les maîtriser. Et là, c'est parti, vous êtes dans un projet de recherche de sens de l'équilibre attentionnel.
Alors justement, pour distinguer un petit peu les différents regards, là, vous parlez de ce phénomène assez inquiétant quand même, qui tente à prouver que notre cerveau fonctionne un peu en autonomie, malgré nous, ou en avance sur nous d'une certaine façon, ce qui est quand même assez fascinant.
Moi, je trouve que c'est une des grandes leçons des neurosciences cognitives de ces dernières années, c'est d'avoir vraiment démontré ça, c'est-à-dire la part d'automatisation, d'automatisme dans notre comportement, d'habitude qu'on avait l'habitude d'associer au simple réflexe. Donc, je tape sur le genou, ma jambe se lève, mais on se rend compte que parce qu'il est si difficile de choisir chacune de ces actions, et quasiment impossible, en fait, ces automatismes, ils conditionnent l'essentiel de notre comportement. Et là, par exemple, alors que je vous parle, je parle à raison encore de 3-4 mots par seconde, je ne choisis absolument pas les mots que j'utilise. Donc ces mots sont choisis par mon cerveau, ça sort, et tout ce que je peux faire, c'est juste constater que c'est à peu près ce que je veux dire.
Ce qui est une chance absolue, c'est très satisfaisant quand même, comme sensation.
Mais ce que ça veut dire, c'est que cette notion très occidentale de contrôle fort, où on a l'impression qu'on décide, vraiment qu'on est au contrôle, on est comme le capitaine de son bateau à moteur, là où on dit « je vais là et j'y vais », est complètement fausse. Donc on décale complètement ce regard et cette attitude vers une autre attitude, qui est une attitude d'observation et de lâcher prise, où en fait, vous allez guider votre comportement, finalement, plus par petites touches subtiles. Donc tout se passe bien, je vais intervenir là, ça va aller plus dans ce sens-là. Et on passe totalement, on décale complètement la zone de contrôle. Et finalement, l'un des enjeux, et la méditation justement met l'accent là-dessus, c'est cette capacité à observer sans contrôler ou contrôler de façon minimale. C'est-à-dire que vous commencez à méditer, première instruction, vous rentrez dans un centre de méditation, on va vous demander de poser votre attention sur la respiration. Qu'est-ce qui va se passer? Immanquablement, vous allez commencer à contrôler votre respiration. Vous allez essayer de respirer d'une façon particulière. Là, si je vous demande de surveiller votre regard, les déplacements du regard, il va être extrêmement difficile pour vous de laisser votre regard aller sans le contrôler. Donc il y a toute une zone assez fine finalement d'observation sans contrôle qui n'est pas si évidente à atteindre et qui détermine une qualité d'attention et une qualité de relation à l'existence qui est assez, assez désirable.
Jean-Marc Benayem, vous définissez deux types de regards. Un regard analytique qui est tout à fait en écho avec ce que vient de dire Jean-Philippe Lachaud, le regard analytique et le regard sensoriel. Alors est-ce qu'on peut à la fois les définir mais aussi peut-être faire une petite expérience pour les éprouver?
On peut effectivement, je dirais, forcer un peu la chose pour la faire apparaître un petit peu plus. Et avant d'en dire davantage, on pourrait faire un exercice, par exemple.
Absolument.
Alors, faisons l'exercice tous ensemble et vous me direz si, peut-être en levant la main, peut-être tout à l'heure, si cet exercice est ressenti comme vrai, comme authentique, ou si c'est pas une construction comme ça, farfelue. Voilà le premier exercice, juste quelques secondes. Je vous propose d'observer l'environnement d'une certaine manière, de manière, on pourrait dire, analytique, c'est-à-dire comme si vous deviez dire précisément combien il y a de tables, combien il y a presque de couleurs, combien vous voyez de personnes, vous voyez, une espèce de contrôle. À votre avis, quelle est la hauteur de l'estrade, combien il y a de panneaux qui sont là, combien y a-t-il de statues dans la salle? Voilà. Donc je vous laisse avoir ce regard-là qui est un regard de tentative de maîtrise. Combien il y a de personnes peut-être? Ok, c'est bon. Maintenant vous pouvez cesser ce regard-là, ce mode-là, si je puis dire, ce mode. Et si vous êtes d'accord, on change de mode. Voilà l'autre. Je ne vous demande plus cette fois-ci d'analyser, mais simplement de ressentir. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes bien dans la pièce? Est-ce que vous êtes à l'aise dans le fauteuil ou peut-être pas? Comment vous supportez le voisin ou la voisine? L'ambiance, un peu voilà. Si quelqu'un vous demandait tout à l'heure, bon, ok, d'accord, mais l'ambiance était comment? Ah, alors attends, j'essaye de retrouver l'ambiance. Si je suis bien, hein. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Et voyez si c'est vrai que ça n'a rien à voir. Vous êtes d'accord? Que ce sont vraiment deux modes perceptifs complètement différents. Peut-être on peut se rendre compte, peut-être lever la main ceux qui trouvent que oui, c'est vraiment différent. Voilà, qu'on se rende compte. Ah, alors vraiment, presque tout le monde a fait l'expérience.
Voilà, nos auditeurs ne verront pas l'image, mais en fait, 90% ont levé la main.
On a senti la différence. Alors pourquoi on s'intéresse à ça? Voilà, rapidement. Eh bien, le premier mode perceptif, c'est j'analyse, j'observe. Les deux sont précieux, hein. J'analyse, j'observe, je compte. Comme on peut voir dans les TOC, d'ailleurs, hein, je compte, je me lave les mains 50 fois.
Bon, ça, c'est les troubles obsessionnels. Voilà, du comportement.
Les troubles obsessionnels. Ce mode-là, quand il existe, il est très bien. Mais si on s'y installe, ah, ça, la pathologie risque d'arriver, et elle arrive. Et puis l'autre mode qui est un mode élargi, attends, j'essaye de ressentir, voilà, si je me sens à l'aise dans mon corps, dans l'ambiance, attends. C'est un mode où nous voulons ramener les patients parce que la plupart des pathologies se trouvent là, c'est là-bas, c'est-à-dire dans je veux tout comprendre, je veux tout maîtriser. L'autre mode, c'est plutôt, s'il dure trop longtemps, c'est plutôt le délire. C'est-à-dire, je suis tout le temps dans l'imaginaire. On dit, mais tu peux pas revenir un peu, tu peux pas retrouver un peu, redescends un peu sur terre, on nous dit, quand on est un peu trop dans l'autre. Et le bon équilibre, si tant est qu'il existe, c'est de passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, c'est la fluidité de l'eau, où je vais dans l'imaginaire, la rêverie, et puis on me dit, oui, mais t'as les courses à faire. Ah oui, ok. Donc je reviens dans, ah ben là, je suis là vraiment. Ah, et puis je repars. Vous voyez, ce serait ça la fluidité que nous cherchons à retrouver avec les patients qui souffrent.
Christophe André, est-ce que justement là on ne décrit pas c'est toutes les composantes qui s'intègrent dans la méditation que vous proposez, dans cette expérience un peu intégrale qui est à la base des exercices de votre livre?
Oui, oui, oui. D'une certaine façon, on peut voir la méditation en général et la pleine conscience en particulier comme une forme d'entraînement de l'esprit où nous allons apprendre à observer du mieux que nous pouvons, en tout cas, le fonctionnement de notre esprit et apprendre à accompagner ce fonctionnement. Comme le disait Jean-Philippe Lachaud et comme le montrait aussi Jean-Marc Benayem, on ne peut pas contrôler ça comme on contrôlerait une machine. Et effectivement, l'entraînement de l'esprit, ça ressemble davantage à de l'équitation qu'à de la moto. Hein. On n'a pas une machine qu'on va contrôler à droite, à gauche, plus ou moins vite. On a quelque chose qui est vivant, qui peut échapper en partie à notre volonté, mais qui peut aussi en partie lui obéir pour peu que nous nous y prenions bien. Il y a un exercice classique.
Ah, j'allais vous le demander.
Voilà, je vois votre regard que vous voulez un exercice à propos de ça, qui est un exercice de stabilisation attentionnelle par lequel démarre en général beaucoup de séances de méditation, quelle que soit l'école, hein, pas seulement dans la pleine conscience. On a besoin de stabiliser notre attention. Lorsqu'on arrive dans l'exercice, on a fait des tas de choses avant, on va avoir des tas de choses à faire après. Donc, il faut se poser dans l'exercice. Et comme vous le disiez au début de cette émission, nos corps sont ici, mais est-ce que nos esprits sont également ici? Donc, on amène doucement son esprit dans l'instant présent. Et donc, je vous propose un petit exercice centré sur le souffle, centré sur la respiration. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'ils soient ici ou à distance, je vous propose quand même de vérifier que vous n'êtes pas avachi, que vous n'êtes pas dans une position qui écrabouille votre diaphragme, mais que vous êtes plutôt droit et les épaules ouvertes, puisqu'il va s'agir de laisser notre souffle faire son boulot tranquillement. Donc, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. Et ce que je vous propose, c'est de placer votre souffle, les mouvements de votre respiration, au centre de votre attention, de votre mieux, prêtez attention à la manière dont votre corps est en train de respirer tout seul. Ne cherchez pas à respirer de telle ou telle façon. Observez et surtout ressentez votre corps en train de respirer. Pour cela, par exemple, percevez l'air qui entre dans votre gorge et votre bouche, puis l'air qui ressort. Prenez quelques instants pour ressentir physiquement que l'air qui entre est peut-être un peu plus frais, que celui qui ressort est peut-être un peu plus tiède. Toujours sans chercher à contrôler, prenez conscience des mouvements de votre poitrine et de votre ventre qui s'élèvent puis qui s'abaissent avec les mouvements respiratoires. On ne cherche pas à respirer par le ventre ou par la poitrine, on se rend présent à la manière dont notre corps respire. Et l'idée de cet exercice, c'est juste d'observer ce qui se passe. On ne cherche pas à faire le vide, on ne cherche rien, on ne va nulle part. C'est juste un acte de présence à ce qui est déjà là. Chaque fois que votre esprit quitte l'exercice, que vous commencez à vous dire « qu'est-ce que c'est que ce truc ? Où ai-je garé ma voiture ? Ma feuille d'impôt ? Les courses à faire ? etc. » Acceptez que ces pensées soient là. Votre esprit fait son boulot. Notre esprit produit des pensées comme nos poumons produisent du souffle. Et revenez tranquillement à la conscience du souffle. Si l'esprit repart, revenez tranquillement au souffle. Et parfois, les exercices de méditation centrés sur le souffle, on va passer un quart d'heure à ramener notre esprit. Et c'est très bien, c'est un excellent entraînement. Voilà, alors là encore, on pourrait rester des heures, évidemment, comme ça. L'idée, vous le comprenez, c'est un exercice d'entraînement. Et cette distraction, cette dispersion qui vous a peut-être gêné pendant l'exercice, hein, on essaie de se centrer sur le souffle et on s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Elle est logique, c'est comme lorsque je fais un footing, de me sentir essoufflé. L'essoufflement ne signe pas que je suis inapte au footing ou que c'est un exercice absurde, c'est juste que c'est comme ça et que si je persévère, eh bien je développerai peut-être une aptitude à courir malgré l'essoufflement, une aptitude à centrer mon attention malgré la tendance naturelle à la distraction.
Mais Elisa Brune, dans le cas qui vous intéresse le plus, donc le cas des relations amoureuses et sexuelles, on a un peu la sensation que dans un premier cas, plein de choses, par exemple dans l'état amoureux, on n'est pas absolument maître de ce qui se passe, et que dans la relation sexuelle, en revanche, il faut carrément éviter de prendre trop de contrôle sur les choses et sur les sensations. Est-ce que là, donc, on n'est pas un peu en décalage par rapport à tous ces exercices que l'on vient d'évoquer?
Oui, tout à fait. L'état de conscience est un continuum très vaste avec beaucoup de paysages différents. Là, on a exploré une région. Moi, je vous propose plutôt maintenant de parler d'une région très différente, beaucoup plus escarpée, pleine de relief, parfois périlleux. On ne va pas faire une expérience, mais vous connaissez cet état. Je peux vous dire que si on mettait les gens qui, parmi vous, sont dans une relation amoureuse très jeune, de quelques mois, si on les mettait de nouveau dans un IRM pour voir l'état de leur cerveau au moment où on leur présente la photo de leur amoureux ou amoureuse, on verrait la signature typique de l'état amoureux qui implique les circuits de la dopamine, les circuits de l'oxytocine et les circuits des endorphines. Si cet état amoureux est récent, on verrait en plus une relative désactivation dans le lobe frontal qui correspond au jugement et ce qui nous ramène à cet adage, l'amour rend aveugle, c'est tout à fait vrai du point de vue neurophysiologique. Si on reproduisait l'expérience 5 ans plus tard, à supposer que les deux personnes soient toujours ensemble et toujours dans une relation d'amour, on verrait une signature proche de ce qu'elle était au début, mais avec un pic de dopamine qui a disparu et la désactivation frontale qui a disparu. Donc on est passé dans un stade plus calme et plus réfléchi d'une même chose qui se traduit par un attachement. Donc cet attachement reproduit en fait des circuits qui ont été entraînés et mis en place lors de l'attachement premier, l'attachement parental dans la petite enfance, et en fait ils sont, on pourrait dire, recyclés pour l'attachement amoureux plus tard.
Donc là, l'aveuglement a disparu, hein, c'est bien ce que...
L'aveuglement a disparu, on est dans une relation plus apaisée et plus réfléchie. Mais on a perdu cette excitation qui nous fait bondir le cœur dans la cage thoracique, et c'est parfois un peu dommage. Encore que c'est une minorité de couples, il est avéré que cet état d'émoustillement et de grande émotion amoureuse peut perdurer au-delà des 2 à 3 ans réglementaires, on va dire.
Mais si je peux me permettre, l'aveuglement est nécessaire à l'attachement. C'est-à-dire, si nous n'étions pas aveugles sur les défauts de notre conjoint au début, si d'entrée on repérait tous ses défauts, on ne s'attacherait jamais à lui. C'est ça, parce que le même mécanisme marche chez les mamans par rapport à leurs enfants. On s'attache à nos enfants, même s'ils nous réveillent la nuit, même s'il faut changer leur couche. Heureusement que parfois
on
est aveugle.
C'est un mécanisme en fait évolutif très pertinent, puisqu'il permet de former des couples suffisamment durables pour que la descendance soit un petit peu grande avant que le couple se sépare. Ce qui n'est pas
une fatalité.
Obligatoire, mais non. Ce qui est fréquent, c'est un attachement qui change de nature. Alors après ça, je vous ai dit que le pic de dopamine avait disparu. Et il faut parler alors de la sexualité, où là c'est la dopamine qui est la reine et qui mène le monde, puisque c'est le circuit de la récompense qui est stimulé au maximum dans l'activité sexuelle, et surtout dans son maximum qui est l'orgasme. L'orgasme, c'est quelque chose qui paraît toujours assez mystérieux, assez incontrôlable. Aujourd'hui, on l'étudie par l'imagerie cérébrale. Il y a deux endroits dans le monde où on met les gens dans le tunnel et on leur demande de s'exciter jusqu'à l'orgasme et on regarde ce qui se passe dans leur cerveau. Eh bien, on a été très très surpris.
Déjà surpris du fait qu'on puisse
déjà
ressentir
que ce soit
du
possible,
plaisir dans
effet,
un tunnel.
Oui. Il faut des cobayes bien entraînés, hein,
voilà.
Parce que la tête doit rester rigoureusement immobile, donc elle s'entraîne pendant des semaines. Mais c'est pour l'avancement de la science. Et la science a, en effet, avancé sur ce front-là. Puisque, en fait, si on représentait l'orgasme par un schéma rectangulaire, bon, c'est pas très sexy, mais prenez un rectangle composé de 80 colonnes. Chaque colonne représente une des zones du cerveau. Et puis le temps se déroule verticalement pendant 20 minutes, mettons. Eh bien, l'orgasme se présente comme une activation de différenciée dans chacune des colonnes, mais si vous regardez horizontalement, vous voyez que ça augmente, et en moyenne, donc le taux d'activation cérébrale augmente régulièrement jusqu'au moment de la déflagration, où en fait 90% des zones du cerveau sont actives. En fait, c'est un événement massif dans le cerveau, y compris toutes les zones des émotions, toutes les zones cognitives sont impliquées. En fait, il y a quelques rares points du cerveau qui par contre s'éteignent, notamment ceux liés à la peur et au contrôle. Tout le reste est en pleine effervescence. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé, et qui correspond à une intuition que par ailleurs la littérature ou les poètes avaient, c'est de se dire que le moment du sublime, notamment en art ou dans les spectacles naturels, le moment du sublime, c'est ce moment où toutes vos ressources cérébrales sont à l'unisson. Elles déclenchent en même temps et pour la même chose, et vous avez ce sentiment d'être entièrement occupé, entièrement pris, et que vous assistez simplement au bonheur à l'état pur. Et ça, c'est vrai dans l'expérience esthétique, et c'est très vrai dans la sexualité. Alors évidemment, il faut faire un distinguo entre le phénomène physiologique de l'orgasme qu'on peut décrire comme un réflexe nerveux du système central autonome avec plein de corrélats physiologiques, mais c'est beaucoup trop court de dire ça. L'orgasme dont je viens de parler est aussi un phénomène psychique, et c'est ça qui caractérise la sexualité humaine, et d'ailleurs qui interdit de poser vraiment la question au sujet de l'orgasme chez les animaux. On ne peut avoir que des mesures des corrélats physiologiques. Mais pour ce qui est du ressenti psychologique, psychique, c'est un événement global et spécifiquement humain.
Jean-Philippe Lachaud.
Oui, d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de redire qu'il est faux qu'on n'utilise que 10% de son cerveau.
Totalement oui, ça c'est faux. Une fable.
Et d'ailleurs, au passage, lorsqu'on fait attention, on aussi, le cerveau est plus engagé. C'est un effet de l'attention d'engager plus le cerveau. Mais je voulais aussi rebondir sur la notion d'attachement qui a été évoquée et qui me paraît très importante, parce qu'il faut vraiment distinguer deux types d'attachement. Le premier qui est vraiment l'attachement à l'enfant, l'attachement à son conjoint, et qui est plutôt positif, et distinguer d'une autre forme d'attachement qui, à mon avis, qui intervient même pendant l'acte sexuel, hein, qui est l'attachement à la sensation qu'on s'attend à ressentir. Le contrôle volontaire, dès qu'il y a contrôle volontaire, il y a une idée d'objectif et une idée qu'il doit se passer ceci ou cela, et le cerveau va réagir toujours en détectant les erreurs par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à l'état dans lequel vous êtes amené. Et c'est là où l'attachement, dans ce cas-là, qui est vraiment une forme d'attachement différente, qui est très liée au contrôle volontaire, va en fait vous bombarder de signaux d'erreur. Vous avez l'impression d'être sans arrêt en erreur.
Oui, Elisa Brune.
Oui, juste pour revenir à la notion d'état de conscience, ce que je vous ai décrit au sujet de l'état amoureux, c'est donc un bain chimique particulier, dopamine, endorphine, ocytocine, qui sont en fait un état de légèrement drogué. On peut considérer que l'amour est une drogue naturelle, et ce n'est pas faux. Vous êtes sur un nuage parce que vous baignez dans cet état chimique particulier. Par contre, l'orgasme est quelque chose de complètement différent, que j'ai décrit donc comme une activation massive et coordonnée, et qui fait beaucoup plus penser à une crise d'épilepsie, sauf que dans la crise d'épilepsie, il y a des décharges synchrones qui sont très perturbantes et qui ne s'arrêtent pas, alors que dans l'orgasme, c'est relativement homogène et ça se résout naturellement.
Jean-Marc Benayem voulait intervenir.
Je pense, il y a l'état où on va à peu près bien, qui nous permet d'enrichir notre compréhension, mais sans arrêt me revient à l'esprit des cas cliniques, des patients qui justement n'arrivent pas à lâcher le contrôle. C'est-à-dire, il y aurait quelque chose dans le contrôle, malheureusement, qui serait très rassurant. Voilà, il me semble que je maîtrise, il me semble que je suis capable de comprendre, il me semble que j'ai les pieds sur terre, je suis cartésien, etc. Et il y a quelque chose dans le lâcher prise, formule qu'on entend souvent, où il y a quelque chose dans cette perception élargie, où je ne le contrôle plus, où j'accepte de ressentir sans savoir pourquoi. Il y a quelque chose qui fait peur. Et c'est pour ça qu'on n'y va pas facilement, volontiers. Et c'est pour ça que les patients consultent. C'est parce qu'à un moment, il faut traverser cette peur. Il faut perdre quelque chose, comme ça a été dit, pour que de la rigidité qu'il y avait, quelque chose de fluide apparaisse. Et si le patient, et si nous-mêmes, bien sûr, nous acceptons de lâcher cette peur, alors un changement peut se produire.
Oui, comme je disais dans l'état
Elisa
d'orgasme,
Brune, rapidement, et Christophe André, après.
Il y a une zone cérébrale qui doit s'éteindre, c'est la zone de la peur, et qui, si elle ne l'est pas, empêche la continuation du processus. Et l'autre obstacle courant, c'est une difficulté à concentrer son attention sur l'activité sexuelle proprement dite. En fait, les études montrent que la chose qui est la plus corrélée à la difficulté orgasmique chez les femmes, c'est la distraction cognitive. Autrement dit, plus elles pensent à autre chose, moins elles ont de chances de parvenir au plaisir.
C'est une véritable surprise. Christophe André.
Cette question du contrôle, elle est centrale, effectivement. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la méditation, justement, ça peut avoir ceci de déconcertant, qu'on apprend aux participants à être extrêmement présents à l'intégralité de leur expérience, qu'elle soit psychologique ou sensorielle, présents au mouvement de leur pensée, présents à leurs sensations corporelles, au son, au mouvement du souffle, sans chercher à contrôler, ce qui est un état inhabituel. La plupart des actes ou la plupart des états psychologiques que nous traversons dans une journée sont des états où nous faisons quelque chose dans le but de contrôler ou d'obtenir un résultat. Dans la méditation, et c'est là que ça rejoint ce lâcher prise dont parlait Jean-Marc Benayem, eh bien, nous apprenons tout en étant présent, parce que le cerveau des méditants est un cerveau en pleine activité. Quand on observe effectivement ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec la somnolence, le sommeil, l'apaisement. D'ailleurs, quand on est fatigué, on ne peut pas méditer, c'est trop compliqué. Mais c'est un état de présence où on ne cherche pas à contrôler ou à obtenir quoi que ce soit, juste à être dans une attention ouverte, assez large, immergée dans ce que nous sommes en train de vivre.
Jean-Marc Menayem.
Eh bien, voilà, je vais citer Christophe André dans son livre « Sérénité, 25 histoires ». Comment on traverse la peur ? Parce que c'est ça qui nous effraie. Page 48. « Si je souhaite ne plus éprouver sans cesse de la tristesse ou de la colère, plutôt que de vouloir ne pas les ressentir, je vais accepter pleinement de les ressentir, d'y aller au lieu de fuir. » Donc, il va traverser, les éprouver, les examiner avec attention lorsqu'elles se présenteront. C'est-à-dire qu'il y avait l'attitude de fuite, où j'ai dit non, je veux tout maîtriser, expliquez-moi avant, et puis il y a l'attitude où on peut changer, où on dit, ok, c'est bon, ben, je sais rien, je comprends rien, mais j'y vais tout de même, et c'est à ce moment-là que quelque chose se produit, que ça s'ouvre en quelque sorte, parce qu'on a accepté de faire face au lieu de fuir.
Alors, un des instruments de cette ouverture dans l'hypnose que vous pratiquez, c'est ce que vous appelez la confusion. Alors, ça ne va pas peut-être être facile à expliquer en deux mots, mais c'est important.
On peut faire un exercice juste 10 secondes. Par exemple, avec la pulpe du doigt, touchez un objet ou touchez votre pantalon ou votre cahier ou votre papier et déplacez. Voilà, faites un petit mouvement. Déplacez. Voilà. Vous voyez, c'est riche, alors c'est rugueux, c'est lisse, c'est chaud, c'est froid. Et après, hop, ne déplacez plus, laissez immobile. Et voyez si c'est vrai que quand ça s'immobilise, au bout d'un moment, on n'a plus tellement d'informations, ça devient confus. D'ailleurs, c'est simple, rebougez de nouveau et voyez si c'est vrai, ah bah oui, ça s'enrichit. Ça va pour tout le monde ? Donc ça voudrait dire que l'immobilité dont souffle le patient, c'est ça. Comme ça s'immobilise, ça devient confus. Et pour finir, la confusion, c'est ce qui nous sert à troubler la maîtrise. Je veux tout maîtriser, donc on dit au patient, bon, bah alors laissez tomber, laissez écouter ma voix un peu monotone qui détend, voilà. Regardez le point fixe au loin, là-bas, sans bouger. Ça. Et cette monotonie, cette immobilisation d'un sens va perturber les autres sens. Et de cette confusion, nous espérons qu'il va naître, c'est pas toujours le cas, mais nous espérons qu'il va naître une autre perception plus large où le patient va redistribuer en quelque sorte, faire comme un reset et va dire, ah bah oui, cette configuration, oui, ah bah oui, c'est possible, ah bah oui, hop, ça s'est ouvert.
Voilà, nous arrivons au terme de ce débat. Merci à nos quatre participants. C'était la table ronde enregistrée lors du Forum France Culture L'année vue par les sciences, en partenariat avec l'Université Paris-Sorbonne et avec le soutien du magazine Science et Vie, du rectorat de l'Académie de Paris et d'Univers-Science. Merci aux équipes de la Sorbonne et de Radio France qui ont rendu cet événement possible. Science publique d'Annie Journaud avec Jean-Philippe Thomas, Sébastien Huel, Tanguy Lecorneau, Jean-Pierre Zing et Jérémy Tuile à la Sorbonne, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Have a spirit of grace.